Entre-temps, entre nous, un partage de réflexions avec le doyen Philippe Capel-Dumont. Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 en compagnie du doyen Philippe Capel-Dumont, doyen honoraire de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris, professeur des universités, professeur de philosophie à l'Université de Strasbourg. Aujourd'hui, nous parlons de la maladie matérialiste du temps. Philippe, nous sommes devenus obèses de biens, d'objets, de nourriture, et parallèlement, nous avons oublié l'intériorité. Pourquoi est-ce que nous n'existons plus dans l'être, mais dans l'avoir et dans le faire?
Nous avons changé complètement de monde. Il n'y a pas si longtemps, les générations vivaient au titre de la survie. Il fallait survivre, donc trouver à manger, se donner le minimum vital. Et il n'y a pas si longtemps, nos grands-parents, arrière-grands-parents, des générations entières vivaient, d'ailleurs avec la Seconde Guerre mondiale, ont vécu un peu partout, majoritairement, dans cette recherche minimale de biens pour survivre. Une orange. Aujourd'hui, et en peu de temps, et c'est ça le drame, n'est-ce pas? C'est qu'en l'espace de quelques décennies, nous vivons selon un paradigme symétriquement inverse. Et nous ne maîtrisons pas la situation. Nous sommes passés de la situation de survie à une vie de surconsommation. Et nous consommons sans savoir précisément pourquoi.
Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps?
Nous avons eu, en l'espace de 40 ans, à la faveur d'ailleurs d'une toute une reconstruction après la guerre, nous collectifs, n'est-ce pas, nous avons vécu une sorte de dernier avatar de l'optimisme de civilisation. On peut dire que la fin de l'idée du progrès des civilisations, cette fin de l'idée du progrès a lieu avec la Première Guerre mondiale, intellectuellement. On peut dire qu'avec la guerre de 14-18, s'est éteint l'illusion d'un progrès nécessaire de l'histoire. Le XVIIIe siècle a inventé le mot progrès, au XVIIe siècle, considérant que nous allions vers sur des voies pacifiantes et que l'universel du monde allait, par la raison, trouver des moyens, donc de lutter contre les guerres des religions, et par la raison de trouver des moyens de pacification. Et en 1914-18, la guerre mondiale. L'homme révèle le mal qui est en lui. Et nous ne pourrons jamais ainsi, de façon immanente, nécessaire, atteindre le bien. Seconde guerre mondiale, Auschwitz, le mal absolu. L'homme voit à ce moment précis qu'il est impuissant devant lui-même. Il ne sait pas se battre contre lui-même. Si vous voulez, nous sommes dans le régime. Or, que se passe-t-il après? Et le monde juif paye très cher la facture, évidemment. C'est les chrétiens aussi, pas les catholiques ont aussi été persécutés, les gitans aussi, mais c'est le peuple juif qui a payé le plus lourd tribut, indéniablement. Après la guerre, nous vivons 30-40 ans où un relent d'optimisme civilisationnel s'impose. En effet, ce qu'on appelait les Trente Glorieuses, c'est le moment de la réviviscence économique, des grandes personnalités en France, le général de Gaulle, mais aussi on a des grandes personnalités ailleurs, participent d'une sorte de fierté de la nation, de fierté de l'Occident, et nous vivons une sorte de progrès économique en l'espace de quelques années. Les Européens se munissent du minimum, de la télévision, des réfrigérateurs. Il n'y avait rien. Et tout à coup, en l'espace de 30 ans, une génération tout à coup se voit munie et ne connaît pas le processus par lequel on est arrivé là. Donc, 68, par exemple, 1968, qu'est-ce que c'est? Il y a eu beaucoup de commentaires de 68. C'est une génération qui n'a pas connu le sacrifice de la guerre, mais qui vit dans l'héritage des progrès économiques. Hein. Alors, 68, d'ailleurs, c'est aussi la contestation, la première contestation de cette consommation.
L'analyse de, je crois que c'était Vincent Ponté, du Monde, qui disait « la France s'ennuie ». Quelques jours, quelques semaines avant l'explosion pseudo-révolutionnaire.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'était une phrase de Camus aussi. Dans les années 50, Camus avait répondu à sa fille « Mais papa, tu as l'air triste ». Et Camus disait « Je m'ennuie ». Et c'est très révélateur. Il y avait une sorte d'optimisme matériel. Paradoxalement, et de façon proportionnée, il n'y avait plus d'espoir d'une humanité, si vous voulez, en attente de délivrance. Donc, que s'est-il passé? Au fond, le temps s'est rétréci. Pour donner une image très, très rapidement, n'est-ce pas? On peut dire, sans caricaturer, en forçant un peu le trait, on pourrait dire que jusqu'au Moyen-Âge, on se tournait vers l'origine, n'est-ce pas? Le sens était dans l'origine. Et il fallait se référer à l'origine pour trouver le sens, le récit. À partir du monde de la première et la seconde modernité, première modernité 16e siècle, deuxième modernité 18e siècle, on se tourne vers le futur, le sens c'est le futur. Et à partir des années du 20e siècle, après la seconde guerre mondiale, que se passe-t-il? Le sens c'est le présent.
On vit dans l'instant.
Voilà, c'est le présent. Et donc nous avons perdu le rapport à l'origine. Nous avons perdu le rapport au futur. Nous savons plus très bien ce que nous attendons. Donc nous sommes dans la gestion du présent. Et c'est le concept que l'on a trouvé pour désigner ça, c'est la postmodernité. C'est un concept flou, pour reprendre le vocabulaire d'un de mes collègues. C'est un vocabulaire qui veut dire quoi au fond? C'est que nous sommes dans la fragmentation. Pas simplement dans la différence, mais dans la fragmentation. Nous n'avons pas le principe d'unification de ce qu'il a. Le sens n'est plus unifié. Et nous sommes dans du sens fragmenté. Alors que nous reste-t-il? Eh bien, précisément, à consommer, à prendre, tout de suite, immédiatement. Et si on peut tirer parti immédiatement, alors allons au cinéma. C'est ça le matérialisme, c'est consommer de l'image, consommer du livre, n'est-ce pas? Moi, j'appartiens à une génération où quand on lisait un livre, ça pouvait durer des mois. Lire un mois, lire Zola, lire Supervielle, la poésie de Supervielle, ou lire du Mauriac, ça pouvait prendre des mois. Aujourd'hui, vous prenez un livre, aujourd'hui, vous prenez un livre, vous le consommez, ça dure deux jours, trois jours, n'est-ce pas? Le rapport au livre n'est plus le même non plus.
Philippe, ce qui me paraît important, c'est que nous aurions pu être heureux d'avoir dépassé le stade de la nécessité de survie, avoir au fond de quoi manger, avoir de quoi nous loger, de quoi nous protéger des intempéries. Et puis, ça aurait pu libérer l'esprit, ou libérer le cœur, ou libérer les volontés pour faire des choses bien, pour être plus humain, pour être plus fraternel. Pourquoi est-ce que nous nous sommes enfermés dans ce matérialisme?
Parce que nous avons pensé que la fraternité pouvait être lisse, facile, etc. Or, vous aurez observé que cette obésité dont vous parlez, elle est coextensive au fait que nous avons marginalisé la mort et la souffrance et le handicap. Et nous ne savons plus du tout ce que sont que la souffrance et la mort. Et donc, aujourd'hui, il y a des tentatives, je suis tout à fait honorable, ne soyons pas trop pessimistes, il y a quand même des tentatives très honorables pour réinstaller le monde du handicap, le monde de la souffrance dans la vie sociale. Regardez tout ce qui est fait dans les transports en commun, etc. Je trouve que ce sont des signes intéressants qui montrent que l'humain s'aperçoit malgré tout que être humain, c'est porter l'attention sur le souffrant, le marginal, qui redevient au centre. Et pour vous dire les choses, je crois profondément que si on y regarde de près, lorsqu'on met le vulnérable au cœur d'une civilisation, on s'aperçoit que tout change et la civilisation redevient noble, n'est-ce pas? Donc l'obésité matérialiste, c'est précisément la mise aux marges de ce qui au fond fait le cœur de l'humain, c'est-à-dire l'homme souffrant, l'homme qui suscite de l'amour, justement, parce que dans la souffrance, l'amour se décuple, et l'homme se valorise, l'homme devient humain et révèle toutes les potentialités dont il est capable parce qu'il y a des situations tragiques. Le pire, c'est la fraternité lisse, esthétique, où il ne se passe rien, on est entre nous, le narcissisme absolu, n'est-ce pas? On s'entend bien entre nous, mais on n'a pas l'adversité.
On a évacué tout ce qui était un peu plein d'aspérité.
Exactement. Alors précisément, je pense que nous ne devons pas pour autant faire un tableau noir. De fait, nous avons raison de mettre le doigt. Vous savez, le diagnostic que vous êtes en train de citer me fait penser au récit de Ninive Jonas, n'est-ce pas, qui rentre dans la ville en disant « c'est trop tard, ça y est, il faut absolument… » De toute façon, c'est trop tard. Et c'est parce que c'est trop tard que les choses changent. Et donc, d'une certaine manière, il faut que des gens, comme l'auteur que vous venez de citer, disent « nous sommes dans une obésité, etc. » C'est trop tard, et le trop tard réveille, n'est-ce pas? Et donc, il n'est jamais trop tard lorsqu'on dit qu'il est trop tard. Et la seule, me semble-t-il, la seule posture collective que nous pourrions avoir, c'est de remettre au centre les figures de vulnérabilité dans la société. Et ça, c'est un véritable défi pour les civilisations. On peut parier sans gros risque que les civilisations qui survivront sont celles qui ont remis la vulnérabilité, la pauvreté au sens large du terme, la fragilité au cœur des civilisations, et pas simplement…
C'est la négation des nations guerrières, ça.
Non, parce que le combat est déplacé. Le combat, c'est l'homme qui lutte contre lui-même, qui lutte contre les parcelles les plus abjectes de lui-même et donc fait émerger, si vous voulez, le meilleur de l'humain. Vous évoquez la guerre, vous avez raison. Au fond, la conquête n'est plus une conquête ad extra pour conquérir des… Mais il y a une autre forme de conquête dans laquelle nous avons engagé, c'est la conquête de l'humain.
Parce que là, il n'y a plus de place pour la conquête.
Non, la conquête des nations, la conquête des terres, c'est terminé, n'est-ce pas? Nous pouvons toujours parler de conquête spatiale, éventuellement. De fait, il y a là aussi un autre défi que nous pourrions évoquer une autre fois. Mais la conquête de l'humain est un procès qui n'est pas achevé, qui peut être au commencement. Nous sommes en train de le vivre et peut-être nous sommes acculés.
Alors il faut retrouver cette intériorité, il faut perdre ce côté de distraction au sens fort du terme.
Oui, alors il faut rester, si je peux dire, pardonnez-moi le mot, humain. D'une certaine manière, il y a des familles de pensées qui sont, de ce point de vue, en tension. Depuis toujours, l'ascétisme épicurien. D'ailleurs, je rappelle qu'Épicure était aussi un ascète, il ne faisait pas n'importe quoi, hein, même si le mot épicurien est devenu aujourd'hui…
C'est presque synonyme de luxure aujourd'hui.
Le fait de dôme de plaisir, etc. Alors que Épicure, pas du tout. Il savait distinguer les plaisirs rationnels, non rationnel, les besoins. Il faisait des citations rationnelles sur les plaisirs, et donc il considérait que si un plaisir donnait plus de souffrance, il fallait absolument pas l'honorer. Enfin, il y avait donc chez lui une forme de rationalité de là encore de la consommation des biens humains. Alors donc restons humains malgré tout, c'est-à-dire que il faut rire, il faut se détendre malgré tout. Pascal, il est vrai, avait des textes contre la distraction. Heidegger aussi, dans Être et Temps, a écrit des livres contre le « on » qui nous divertit. Et le mot « divertit » dit bien qu'on change de versant. Cela étant dit, quand je dis « restons humains », je ne veux pas vous faire, si vous permettez, l'avocat du diable. Mais nous avons des conditions aussi qui exigent que notre corps, notre psychologie doit être honorée. Nous ne pouvons pas toujours être en exigence, n'est-ce pas ?
Tu veux faire l'homme, fais la bête.
Oui, exactement. Et il y a des grandes traditions de pensées qui ont trouvé justement des équilibres entre l'exigence la plus haute, l'exigence morale la plus haute, et en même temps le respect de la pesanteur de ce que nous sommes, ou même de la grâce de ce que nous sommes, c'est-à-dire nous ne pouvons pas toujours être en exigence sacrificielle, si vous voulez. Mais il faut aussi tenir compte de la joie d'être.
Alors pourquoi ce côté sombre de la vie aujourd'hui, des gens, pourquoi cette psychologie négative, pourquoi cette absence de bonheur, pourquoi ce manque de légèreté lorsqu'on l'on regarde la vie au XVIIIe siècle d'une certaine, évidemment, d'une certaine société, il y avait une gaieté, il y avait, ça s'est mal terminé, vous allez me dire, cher Philippe, mais néanmoins, il y avait une sorte de légèreté. On n'est pas léger aujourd'hui.
Alors, je voudrais évoquer, nous ne pourrons pas le faire aujourd'hui, mais je pense qu'à l'horizon de votre question, ou du moins dans la forme de réponse que l'on peut trouver, se trouve un autre problème que nous devons absolument isoler et traiter comme tel. C'est le problème des rythmes dans la vie, n'est-ce pas ? Dans les sociétés ancestrales, il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, il y avait des rythmes de vie. Il y a le rythme de la fête, il y a le rythme du tragique. Et la ritualité était là pour tenir ensemble tous ces événements de vie, dans une temporalité. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que nous avons perdu le sens des rythmes de la vie. Et donc, nous sommes dans une uniformisation. Regardez les fêtes de fin d'année, ça devient maintenant une consommation effrénée, n'est-ce pas ? Mais dans le quotidien, est-ce que nous sommes habités par des rythmes de vie ? Je crains que nous ayons perdu, pour le dire d'un mot, le sens de la ritualité. Il faudrait reprendre cette question comme telle, mais il me semble que c'est aussi une question qui doit être isolée, traitée, pour répondre à la question de la matérialité, du matérialisme obèse.
C'était Entre-temps, entre nous, un partage avec le doyen Philippe Capelle-Dumont. Aujourd'hui, nous avons traité de la maladie matérialiste et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour parler des rites et des rythmes.